Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Maïder Gérard, aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée ce matin par Anna Holweck et mise en onde par Jordan Fuentes. Cette semaine dans Culture Monde, on part au secours de notre planète Terre alors que l'environnement se dégrade et la biodiversité s'éteint sous nos yeux. Qui, aujourd'hui, a les moyens de sauver la planète? Demain, nous explorerons la piste des investisseurs privés comme possible moteur de la transition. Mercredi, celle des sociétés civiles. Jeudi, nous miserons sur les ingénieurs et la technologie pour nous sortir du bourbier environnemental. Mais avant, on s'intéresse à l'Union Européenne. Et si les 28 pays s'unissaient, seraient-ils assez forts pour sauver la planète? Voilà la question qu'on se pose ce matin.
Nous le savons, vous le savez, l'Europe doit être à l'avant-garde de la transition écologique, à commencer par son budget qui doit en être l'instrument. L'écologie est la clé de notre prospérité.
De plus en plus de gens prennent conscience de l'urgence de la question du changement climatique. Le problème, c'est que les partis du centre gouvernent depuis tant de décennies en Europe qu'ils sont coincés pour trouver des solutions. Et voilà les Verts qui arrivent. Nous savons que le statu quo doit conduire au changement, mais avec une réponse progressive et optimiste. C'est ce que proposent les Verts.
Optimistic answer, and that's what Greens provide.
En tant que Verts, nous sommes très heureux d'avoir eu pas mal de succès électoraux et nous sommes bien placés dans les sondages. Et même dans les pays où nous ne sommes pas en pointe, nous sentons qu'il y a une amélioration et que nous commençons à émerger même en terrain difficile. Donc c'est vraiment cool. Bien sûr, cela nous donne aussi une responsabilité au niveau européen.
Voilà, on entendait à l'instant l'eurodéputé vert belge Philippe Lambert, mais aussi les écologistes néerlandais Basse Écoute et l'allemande Ska Keller. Lundi dernier, la campagne pour les élections européennes a officiellement commencé partout sur le continent, alors que l'environnement est la principale préoccupation des citoyens européens, en tout cas selon une consultation organisée par l'association Civico et MEC.org. Les partis verts en Allemagne, en Belgique ou encore aux Pays-Bas notamment connaissent une vraie dynamique électorale. En effet, les Grünen allemands sont crédités de 19% des intentions de vote, le double de ce qu'ils avaient fait aux dernières élections. Ils deviendraient peut-être ainsi la deuxième force politique du pays derrière la CDU-CSU. En Belgique aussi, les Verts sont crédités de 20% des voix, juste derrière le PS. Alors, peut-il y avoir un élan écologiste pour ces élections européennes ? Peuvent-elles redonner un nouveau souffle à l'écologie politique sur le continent? Les questions environnementales se jouent-elles précisément au niveau européen? Et d'ailleurs, qu'a fait l'Europe jusqu'à présent pour préserver notre environnement, pour préserver la nature? Que peut-elle faire de plus? Ses ambitions sont-elles à la hauteur de l'enjeu? Est-elle un moteur pour la protection de l'environnement? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord ici à Paris, Guillaume Saint-Denis, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant à AgroParisTech, spécialiste des politiques environnementales en Europe et puis auteur d'un ouvrage qui est paru récemment, il y a 4 ans maintenant, Le climat qui cache la forêt, comment la question climatique occulte les problèmes d'environnement. À nos côtés, en duplex de Bordeaux, Nathalie Berny, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'IEP de Bordeaux et puis chercheuse au Centre Émile Durkheim. Vous signez-vous, vous, récemment, puisque c'était cette année, défendre la cause de l'environnement, une approche organisationnelle aux presses universitaires de Rennes. Dans plusieurs pays de l'Europe, je vais commencer avec vous, Guillaume Saint-Denis, on voit que les partis écologistes, en tout cas certains, semblent particulièrement bien placés. J'évoquais le cas de l'Allemagne, le cas de la Belgique, mais pas seulement. Comment est-ce que vous l'interprétez et est-ce que vous pensez que ce scrutin pourrait avoir quelque chose un peu d'historique pour les forces écologistes d'Europe?
Alors sur le premier point, l'interprétation est toujours un petit peu difficile parce qu'elle est différente selon les pays, mais en gros ce qu'on constate depuis l'apparition des écologistes sur la scène électorale à la fin des années 70, c'est que on peut pas parler de causalité, mais il y a une corrélation entre l'amélioration de la situation économique et la diminution du chômage et l'augmentation du vote en faveur des écologistes. Et à l'inverse, en période de crise économique ou d'augmentation du chômage, on a plutôt une régression du vote écologiste. Donc on a une petite amélioration de la situation en ce moment avec par rapport au suite de la crise de 2008 quand même, avec une croissance économique qui est un peu repartie, un chômage qui est un peu baissé, plus bien sûr l'attention au problème d'environnement qui elle-même est cyclique, hein, qui n'est pas même, elle dépend des événements, de la concurrence des autres événements marqueurs, etc. Et donc, on est plutôt dans une phase ascendante en ce moment.
Enfin, globalement, on nous dit quand même, les sondages d'opinion nous disent que l'environnement est en train de devenir, est en train vraiment de s'affirmer comme étant la priorité en Europe.
Oui, bien qu'il y ait d'autres thèmes prégnants, on l'a vu avec l'histoire des Gilets jaunes, où l'environnement n'était pas absent, mais n'était pas prioritaire.
Nathalie Berny, même question. Et puis, il y a aussi là une interrogation sur laquelle on pourrait se pencher, c'est qu'on a le sentiment qu'effectivement, au moment des européennes, les partis écologistes marchent plutôt mieux globalement. Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils sont persuadés, ces électeurs, que l'environnement est une priorité et que l'Europe, c'est la bonne échelle pour répondre à ce défi? Ou est-ce que c'est aussi parce que peut-être c'est un vote aussi différent, que ça leur permet de ne pas voter pour les partis de gouvernement classiques, comme si, au fond, voter écologiste aux européennes, c'était une forme de vote de contestation? Nathalie Berny.
Oui, effectivement, je vous rejoins sur les raisons, les résultats les plus récents des eurobaromètres qui montrent que l'environnement est une préoccupation qui talonne les préoccupations économiques, des inquiétudes à ce sujet. Les Verts, aujourd'hui, c'est difficile de dire s'il y aura vraiment un sursaut électoral en faveur de ce parti. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est de signaler que c'est vraiment un moment un petit peu historique. Historiquement, les Verts au Parlement européen sont vraiment une force de progrès. Ils sont actifs au sein de la commission parlementaire environnement. Donc oui, c'est une force politique importante qui pourrait compter au sein du Parlement européen.
Mais vous croyez là vraiment à une percée historique? Si on regarde le cas allemand, il est très intéressant.
Je ne crois pas à une percée historique. Je pense que le moment est historique.
Le moment est historique, ça on en convient tous. Mais d'un point de vue politique, on voit que par exemple du côté de l'Allemagne, ils fonctionnent très bien, ils sont très bien placés dans les sondages, à peu près 20% des intentions de vote, et ils pourraient devenir, si ça se confirme, la deuxième force politique juste derrière les conservateurs, la CDU-CSU. Alors que l'Allemagne vient quand même de vivre un séisme politique un peu dans l'autre sens, avec l'arrivée au Bundestag de 94 députés d'extrême droite. On a quelque chose là un peu de nouveau et un peu d'assez étonnant quand même, une forme assez insolente de ces Verts allemands. Jusqu'où est-ce que... Enfin, comment vous comprenez tout ça, vous, Nathalie Berny?
Je pense que Guillaume Saint-Denis l'a souligné, il y a quand même des différences nationales importantes. Les élections européennes, elles ont deux... Il y a deux versants qui sont difficiles à évaluer. On parle d'élections... c'est des élections où une partie des électeurs vont se prononcer sur des questions politiques nationales. Donc il peut y avoir un rejet de la politique des gouvernements. Mais c'est aussi des élections au scrutin proportionnel. Et pour les Verts, c'est une énorme différence. Et je pense notamment aux Verts britanniques, qui, j'en suis sûre, dans le contexte qu'on connaît actuellement avec un mouvement qui a pris des rues comme Extinction Rebellion, les scores seront intéressants ou en tout cas à évaluer.
On posera la question tout à l'heure à Viviane Gravet. On va s'intéresser effectivement au Brexit, à ses conséquences du point de vue des politiques environnementales. Guillaume Saint-Denis, sur cette forme assez étonnante des Verts du côté de l'Allemagne.
Oui, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que
deuxième force politique, ce sera la première fois.
Oui,
si
mais
c'est le cas.
Historiquement, alors d'abord les Verts, comme vous savez, c'est une expression un peu tronquée parce qu'ils ne regroupent pas tous les écologistes. Oui. Un des problèmes des écologistes, qui n'ont jamais réussi à s'unir. On a plusieurs listes écologistes, par exemple aux européennes, dans beaucoup de pays, y compris en France. Et la différence, c'est que les écologistes, qui ne s'appelaient encore pas Verts en France, sont nés avant les écologistes allemands. Mais les écologistes allemands les ont depuis longtemps dépassés. Pour une raison de chasse et croisée, c'est-à-dire que les Grünen allemands sont nés avec un positionnement qui était un positionnement d'extrême-gauche au départ, puis ensuite on a eu un grand débat qui a duré très longtemps entre ce qu'on a appelé les Fundis, les fondamentalistes, les réalos, les réalistes, et ce sont les réalistes qui l'ont emporté. Il ne faut pas oublier que les Verts ont déjà été vice-chanceliers et ministres des Affaires étrangères en Allemagne, ce qui n'ont jamais été en France, avec un poids important, et qui sont représentés au Bundestag et dans les exécutifs de plusieurs Länder allemands depuis très longtemps. Alors que les Français... D'abord parce qu'ils étaient plus faibles, ensuite parce que le système électoral et le système de financement des partis leur étaient moins favorables en France, mais aussi parce qu'ils ont connu une évolution inverse, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans un positionnement qui était ni gauche ni droite, et ils se sont ensuite beaucoup rapprochés d'un créneau qui était entre la gauche et l'extrême gauche, qui n'a pas attiré ou fait fuir des électeurs dont certains étaient centristes, pour
le dire, de centre-droit. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas très en forme, pour le dire comme ça, nos écologistes français, parce qu'effectivement, si du côté de l'Allemagne ou de la Belgique, ça va plutôt bien, quand on regarde les sondages d'opinion, aujourd'hui, par exemple, la liste de Yannick Jadot, elle est mesurée à moins de 10%. C'est-à-dire que c'est moins que ce que Antoine Wächter avait fait il y a 30 ans, 1989, oui, où il avait fait 10,5. Alors pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas confiance, nous, dans les écologistes français, pour aller mener cette bataille de l'environnement dans l'arène européenne? Il y a quelque chose d'assez étonnant là.
C'est moins aussi qu'en 1999, et ces deux dates sont importantes, parce que justement, 89 et 99, ça correspond à des moments où il y a eu des phases de recentrage des écologistes français, à la fois sur leurs fondamentaux, qui étaient l'environnement, alors qu'entre les deux, ils s'étaient éloignés pour aller plus vers des thèmes sociaux qui ne sont pas leurs spécificités, ou sur lesquels leur crédibilité dans l'opinion est moins forte que sur l'environnement, et aussi de modération programmatique. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que c'est ce qu'essaye de faire visiblement Yannick Jadot en ce moment, où d'ailleurs il est critiqué par à la fois la gauche et en interne par une partie des Verts. Il a bien senti, je pense, que le thème porteur en ce moment, c'est l'environnement, plus que leur positionnement sur les thèmes de société.
Nathalie Berny, comment est-ce que vous analysez les choses, cette faiblesse quand même des écologistes français, quand on regarde le paysage global des partis écologistes en Europe, on voit qu'ils sont particulièrement à la traîne.
Oui, c'est un problème qui a été assez constant pour les écologistes français. Il y a quelques années, Guillaume Saint-Denis avait d'ailleurs intitulé un ouvrage au titre assez évocateur, L'introuvable écologisme français.
Ouais.
Donc, et d'ailleurs, on peut voir que Europe Écologie Les Verts a été rénovée en partie par des cadres issus du rang des associations de protection de l'environnement en France. Donc ça veut dire quelque chose aussi. Il y a une connaissance des enjeux d'environnement, une préoccupation qui a été portée par des personnes, par exemple, comme Yannick Jadot.
Mais est-ce que vous diriez, Nathalie Berny, que les écologistes français sont peut-être aussi victimes d'une forme de verdissement, et je mets des guillemets parce que c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir discuter, des partis traditionnels, et là, en particulier, disons-le, par La République En Marche, qui très clairement a mis l'accent ces dernières semaines sur la dimension environnementale de son programme. On va y revenir, mais est-ce que vous pensez que c'est aussi ça? D'une certaine manière, ils se font shipper ce qui est leur thématique centrale, Nathalie Berny.
Oui, ça a toujours été une difficulté effectivement pour le Parti écologiste. Très honnêtement, je suis pas spécialiste de sociologie électorale, donc je peux difficilement donner des éléments de réponse plus précis.
Guillaume Saint-Denis.
Oui, je pense que c'est une partie de l'explication. J'ai été très frappé le premier débat qu'il y a eu entre les têtes de liste principales il y a déjà peut-être 2 mois, donc elles n'étaient pas encore toutes annoncées. J'étais très frappé de voir que ils étaient presque tous d'accord sur l'écologie, compris les Républicains, le Place Publique, etc. C'était grosso modo les mêmes sujets.
Et vous étiez étonné de voir Pascal Canfin en deuxième position sur la liste de La République En Marche et des efforts assez importants pour verdir le programme du parti présidentiel?
Alors non, je n'étais pas étonné. D'abord, il n'y a pas seulement Pascal Canfin, il y a aussi Pascal Durand, qui est un député vert français sortant, qui est moins médiatisé, mais qui fait un gros travail au Parlement. Et puis, il y a d'autres personnes ayant une sensibilité environnementale sur cette liste. Donc, je crois qu'il y a une volonté d'ouverture à ces sujets-là. Ça me paraît pas du tout anormal.
Ce qui n'est pas seulement de la communication et de la politique électoraliste.
C'est dans un premier temps, clairement, à viser marketing. Ensuite, on verra ce qu'il y a par derrière. On peut pas faire des procès d'intention, mais il y a à la fois dans le programme et dans la composition de la liste un effort d'aller vers ça. Ensuite, on verra comment se comporteront. Je pense d'ailleurs que sur certains sujets, parce qu'il faut pas du tout transposer la façon dont se passent les débats parlementaires en France et en Europe, les gens ne votent pas en fonction de leur étiquette partisane au Parlement de européen.
Donc ils votent différemment.
Bah oui, c'est beaucoup plus un vote de compromis où ils se retrouvent sur des sujets et donc on n'est pas dans une logique. Donc moi je pense que beaucoup de gens de la liste République En Marche et de la liste des Verts voteront de la même manière sur beaucoup de sujets à Bruxelles.
Puisque c'est un vote de compromis, est-ce qu'on peut imaginer que on vote aussi pour un parti comme la République En Marche parce que l'on sait que derrière peut-être alliance il y aura et notamment avec les Verts? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on mise?
Je dirais pas ça comme ça. Je dirais que d'une manière générale, les forces secondaires ont ont toujours de meilleurs résultats, soit au premier tour d'une élection à deux tours, soit dans ce qu'on appelle les élections à enjeu secondaire. Ouais. Or, les européennes sont une élection à enjeu secondaire, donc ils font forcément toujours mieux qu'au second tour d'une présidentielle ou d'une législative.
Nathalie Berny, on avait beaucoup commenté le départ de Nicolas Hulot au début de l'année, en septembre dernier, qui avait évidemment quitté le gouvernement avec fracas, disons-le, et ce qui avait bien sûr aussi montré, illustré cette, de façon assez criante, cette incapacité des écologistes à peser sur les politiques publiques nationales. Or ça, c'est pas un événement qui est réservé à la France, un phénomène qui est réservé à la France. Il y a bien d'autres pays qui peinent, effectivement, où les écologistes peinent à infléchir les politiques publiques, y compris d'ailleurs quand elles intègrent des coalitions gouvernementales. Pour quelles raisons ? Est-ce qu'il y a peut-être un souci, j'allais dire, quasiment institutionnel, qui pourrait expliquer que ces écologistes ont tant de mal à peser à l'échelle nationale, Nathalie Berny ?
Je pense que c'est... C'est pas la seule responsabilité des écologistes, le fait que les politiques environnementales soient aujourd'hui probablement pas assez ambitieuses vis-à-vis des défis qui nous attendent. Et l'environnement, par définition, crée beaucoup d'antagonismes. Il questionne nos modes de vie, les modes de production. Donc il implique nécessairement des intérêts industriels, des intérêts agricoles, aménagistes. Et par définition, l'agenda environnemental, il est arbitré en fonction d'autres priorités. Et effectivement, ça a été signalé tout à l'heure, on voit aussi qu'en phase de récession, l'environnement perd en priorité, y compris dans les agendas gouvernementaux. Il n'y a pas vraiment d'explication variable écologiste. Et d'ailleurs, pour comprendre l'environnement ou la politique, on a souvent tendance à avoir une entrée via les partis politiques, la politique électorale. Mais sur les enjeux qui nous préoccupent, l'environnement, l'horizon d'action que ça suppose, là d'où l'on vient, c'est intéressant aussi d'avoir une approche par les politiques publiques. Et là-dessus, effectivement, la variable d'explication du développement du droit de l'environnement, en France comme ailleurs, c'est pas seulement les écologistes, c'est aussi une mobilisation beaucoup plus large.
Oui, bien sûr. Guillaume Saint-Denis, et on regardera dans cette émission aussi Nathalie Berny, ce que le Parlement actuel a fait en matière de politique environnementale. On y viendra à ce bilan. Mais Guillaume Saint-Denis, sur cette difficulté, effectivement, des partis écologistes nationaux à peser sur les scènes nationales. Est-ce qu'il y a un problème, j'allais dire, institutionnel, un problème de démocratie qui expliquerait cette difficulté ?
D'abord, je crois que c'est une difficulté qui est inégale selon les pays. Elle est moins forte dans les pays fédéraux, oui. Et dans les pays très fortement décentralisés, et dans les pays qui ont un mode de scrutin qui est plus à la représentation proportionnelle. Par exemple, en Allemagne, si vous voulez, une des choses qui a permis la crédibilisation progressive des Grünen, c'est qu'ils ont pu se faire la main, si je puis dire, dans des Länder, avant de... Et ça les a légitimés progressivement pour arriver au niveau national. En France, où nous sommes un pays beaucoup plus unitaire, et où en plus... le financement des partis est arrivé beaucoup plus tard, alors qu'en Allemagne il existe depuis très longtemps et que ça pénalise plus évidemment les partis naissants que les partis installés, et où on a un scrutin majoritaire alors qu'eux ont une représentation proportionnelle, ça a été des obstacles plus importants au départ pour les nouvelles forces politiques comme les écologistes.
Je voudrais qu'on fasse peut-être un petit point, Nathalie Berny, sur la Belgique, qui est un pays où effectivement, là encore, les écologistes se portent très bien et pourraient réussir effectivement même à s'imposer. Et dans les trois régions, c'est ce que nous disent les sondages, à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. Par ailleurs, l'enjeu est intéressant parce qu'il est double. Les Belges vont voter à la fois pour les européennes, mais aussi pour les législatives. Et à en croire les sondages, ces Verts pourraient même former la première famille politique à la Chambre et donc être en position de diriger un futur gouvernement. Est-ce que les écologistes belges vont profiter justement de cette concomitance des deux scrutins pour s'imposer sur les deux scènes, ce qui serait une première, Nathalie Berny ? Vous connaissez cette vie politique belge ?
Non, absolument pas. Je suis vraiment désolée.
Pas du tout.
Je suis pas non plus une
D'accord. Guillaume Saint-Denis sur la Belgique.
Sur la Belgique, c'est intéressant en effet parce que d'abord c'est un pays qui a une sensibilité environnementale plus forte que la France du fait de sa proximité avec les Pays-Bas et l'Allemagne. Et ensuite, là aussi, on a un pays fédéral, ce qui a permis la progressive légitimation des écologistes. Et puis également, on a des écologistes qui sont plus modérés depuis très longtemps que les écologistes français et qui sont donc en mesure de rendre crédible une alliance, que ce soit avec le centre-gauche ou le centre-droit, ce qui n'a pas été à l'ordre de la ligne politique des écologistes français depuis très longtemps. Et donc, ça ouvre un champ des possibles qui est plus important.
Et est-ce que ça leur permettrait d'être en position pour prendre le leadership en Europe du la force écologiste, du groupe écologiste, s'ils arrivent avec derrière eux un gouvernement en Belgique? Peut-être que ça peut changer les choses.
Bah, ils ont toujours été très actifs, les Verts belges. Tout à l'heure, vous faisiez entendre Philippe Lambert, qui est une de leurs têtes de proue. En même temps, ils ont un obstacle, c'est qu'ils sont numériquement faibles, vu le nombre de députés auxquels a droit la Belgique. D'où l'importance de laisser les Allemands, qui ont droit au plus de députés européens, de par les quotas d'élection. Et donc, c'est une raison pour laquelle ils ont souvent été la force structurante des Groenen, des écologistes au Parlement européen.
On dit aussi, par exemple, que les écologistes néerlandais... beaucoup d'influence en Europe, alors qu'ils ne sont pas si nombreux. Comment l'expliquer?
Ça, alors là, c'est un autre sujet. C'est que si vous regardez les pays où soit les ONG de protection de l'environnement sont fortes, soit en Europe, soit les partis verts sont forts, soit les deux ensemble sont forts, ce sont en général des pays protestants ou à forte majorité protestante, Allemagne, Danemark, pays scandinaves, Pays-Bas, Suisse, éventuellement Grande-Bretagne, versus pays latins, catholiques, Italie, Portugal et Espagne, etc. Donc il y a un substrat culturel qui est davantage favorable à la prise de conscience environnementale et aux écologistes dans ces pays-là, et les Pays-Bas sont un excellent exemple.
Nathalie Berny, essayons de faire un peu un bilan de cette période 2014-2019. Aujourd'hui, le groupe des Verts, Verts Alliance Libre Européenne, c'est l'un des 7 groupes du Parlement européen avec 52 sièges. Quel bilan général, et puis on va détailler les choses bien sûr, mais quel bilan général vous faites de ce groupe? Quel a été son pouvoir d'influence lors de cette mandature, cette législature 2014-2019? Nathalie Berny.
Oui, merci. Cette législature a été a démarré avec un discours assez décevant du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui parmi ses priorités ne mentionnait pas l'environnement. Parmi des priorités, seulement le changement climatique. Donc, une partie des ONG à Bruxelles, mais aussi avec le soutien des Verts, ont essayé de se mobiliser pour remettre régulièrement à l'agenda le développement durable, mais aussi les questions environnementales beaucoup plus larges. Les Verts, évidemment, au Parlement européen, sont une force motrice sur les questions d'environnement. Ils jouent un rôle très important dans l'animation des débats. Ils relaient des positions des ONG d'environnement. Mais sur certaines décisions importantes, c'est tout le Parlement européen qui a pris un engagement fort vis-à-vis de l'environnement. Et notamment, il y a une résolution a été adoptée en décembre 2018 qui demande au Conseil et à la Commission européenne de respecter les priorités, les objectifs du 7e programme d'action pour l'environnement. Ça veut dire quoi? Mieux appliquer le droit de l'environnement, mais aussi parvenir à appliquer les objectifs, mettre en œuvre les objectifs très ambitieux de ce programme d'action pour l'environnement.
Guillaume Saint-Denis, en première approximation, le bilan que vous faites de cette mandature 2014-2019?
C'est un bilan qui est, je dirais, entre moyen et médiocre. En effet, pas terrible. Ça aurait pu être mieux. Comme l'a dit Nathalie Berny, ça avait très mal commencé. C'est même allé un peu plus loin que ce qu'elle dit, puisqu'il y avait un programme qui s'appelait le programme Retrofit, qui consistait à revisiter les principales directives européennes, y compris dans le domaine environnemental, pour alléger un peu un certain nombre de normes et de contraintes. Et donc beaucoup de gens ont craint que ça soit à la baisse. Il y a eu beaucoup de protestations. Ce programme Retrofit, finalement, a été moins grave que ce qu'on pensait. Et par ailleurs, il était prévu aussi de revoir à la baisse les objectifs d'un paquet qu'on appelle le paquet Clean Air for Europe, et qui comprend plusieurs directives pour l'amélioration de la qualité de l'air, qui est une des bonnes politiques qu'a menée l'Union européenne jusqu'à présent. Et là aussi, suite à un certain nombre de protestations, Jean-Claude Juncker a mis de l'eau dans son vin, et les choses finalement, on ne peut pas dire qu'il y a eu de vrai retour en arrière, mais c'est pas une commission qui a été marquée par un grand bond en avant du point de vue de l'environnement.
Donc si les choses vont mieux, c'est pas forcément grâce à l'Union européenne et ses institutions. Quand je dis qu'elles vont mieux, c'est parce qu'en 2018, les émissions de CO2 à l'échelle de l'Union européenne ont baissé 2,5% par rapport à l'année précédente, alors qu'en 2017, précisément, il y avait eu une augmentation. Donc ce n'est pas le résultat, justement, d'une politique particulièrement volontariste de la part de l'Union européenne.
Ben,
c'est ça que je dois comprendre.
Paradoxalement, si, parce qu'en fait, il ne faut pas confondre la commission Juncker et l'action historique, structurelle depuis longtemps de la Commission européenne. Mm-hmm. L'Europe s'est intéressée, avant même qu'elle s'appelle Union européenne, s'est intéressée de façon très précoce aux questions d'environnement, puisqu'elle l'a fait dès le début des années 70, à une époque où elle n'avait pas expressément compétence en matière d'environnement, ce qui a d'ailleurs posé un problème juridique, parce que certaines des directives qui ont été adoptées ont été ensuite remises en cause par certains en disant qu'il n'y avait pas de vrai fondement à l'action de l'Union européenne, en tout cas en matière d'édiction de directives, ce qui pouvait se prétendre comme argument.
Vous faites référence à la directive Oiseau,
et on va l'évoquer. À la directive Oiseau, mais aussi à des choses qui avaient été faites avant sous une forme moins normative, parce que comme l'action des États était faible dans ce domaine, ben, l'Union européenne, enfin en tout cas la Commission, comme elle s'appelait à l'époque, s'est engouffrée dans ce vide. Et donc l'acquis communautaire, comme on l'appelle en matière d'environnement, est vraiment considérable. Et clairement, c'est l'Europe qui a fait avancer beaucoup de pays, y compris la France, mais aussi tous les pays d'Europe de l'Est qui ont dû transposer cet acquis communautaire quand ils sont rentrés dans l'Union européenne, et donc qui ont fait un grand bond en avant en très peu de temps. Et donc cet acquis, grosso modo, il est toujours là. Il y a quelques échecs, bien sûr, mais une grande partie des progrès en matière d'environnement est vraiment due à l'Europe, et ça, je pense que les Français n'en sont pas assez conscients.
Oui, la dynamique de fond était bonne. Si la législature n'est pas forcément très très bonne, si le bilan n'est pas forcément très bon, la dynamique de toute façon était là. Nathalie Berny, le 18 mars dernier, les eurodéputés ont voté une résolution en faveur de la neutralité des émissions d'ici 2050. Il y a aussi on a réclamé un renforcement des objectifs intermédiaires, mais est-ce que ces objectifs sont atteignables? Est-ce que les États sont effectivement enclins à tenir ces engagements-là? Ou est-ce qu'au fond, ce genre de résolution, parce que c'est une résolution qui est parfaitement non contraignante, n'a au fond aucune chance d'aboutir et donc n'a pas forcément grand intérêt, Nathalie Berny?
Eh bien, en 2015, l'Union européenne a adopté un paquet énergie-climat qui fixe des objectifs de réduction de gaz à émissions à effet de serre, efficacité énergétique, énergie renouvelable. Déjà, on sait que ce paquet énergie, à l'horizon 2030, l'Union européenne a tous les moyens de souscrire à ces objectifs. Ce que demande le Parlement européen, c'est encore plus ambitieux, c'est une économie décarbonée à l'horizon 2050. Et pour ça, il reste encore une législation ambitieuse à mettre en place. L'Europe a fait plutôt bien, enfin même très bien, elle a excellé dans la réalisation de ses engagements internationaux sur le plan climatique. On sait très bien que les dispositions prises ne sont pas suffisantes pour atteindre, pour limiter l'augmentation des températures à 1,5 par rapport au niveau pré-industriel. Donc voilà, là encore, il y a une ambition affichée par le Parlement européen qui rejoint d'ailleurs un plan stratégique, enfin une prise de position également de la Commission européenne dans ce sens. Et plus récemment, et ça illustre bien la dynamique de l'Union européenne, c'est un système où il y a plusieurs acteurs, plusieurs institutions. Donc des logiques nationales se superposent, des temporalités différentes, période de récession économique, politique d'austérité, qui ont touché les politiques d'environnement en Europe, comme à Bruxelles. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans un conseil informel qui avait lieu au mois de mai en Roumanie, les États ont refusé cet objectif ambitieux d'économie décarbonée. C'est un sujet qui est en suspens. Mais on voit bien qu'il y a une dynamique entre différentes institutions. Et du côté du Conseil, bien évidemment, les États membres ont un poids, une responsabilité même très importante.
Quels sont les pays qui en particulier traînent des pieds?
Eh bien, par exemple, l'Allemagne, la Pologne, qui ont formulé une fin de non-recevoir pour l'instant sur cet objectif. Au contraire, et c'était intéressant à observer, la France, le Luxembourg, mais aussi l'Espagne ont, avant le sommet, fait circuler un document soi-disant confidentiel pour bien exprimer qu'ils rejoignaient cet objectif ambitieux, y compris avec des moyens budgétaires conséquents.
Guillaume Saint-Denis.
Oui, sur les États qui freinent ou qui avancent, je dirais que ça dépend des périodes et ça dépend des gouvernements. Aujourd'hui, on a clairement la Pologne qui freine beaucoup, notamment sur les aspects climatiques, mais pas seulement. La position de l'Allemagne est un peu plus équivoque parce qu'en fait, l'Allemagne donne l'impression d'être le bon élève en matière d'environnement, mais en fait, ils ont une approche très stratégique et très politique publique de l'environnement. C'est-à-dire que c'est un pays où les mécanismes de décision font qu'on se concerte beaucoup plus entre gouvernement, parlement, industriel et ONG, société civile, et on regarde quel est l'intérêt national, et lorsqu'il y a des positions environnementales à prendre de façon positive qui concordent avec l'intérêt national, on le fait, mais quand ça ne concorde pas, on ne le fait pas. Par exemple, comme vous savez, il n'y a pas de limitation de vitesse en Allemagne sur les autoroutes, alors qu'en dehors de l'aspect sécurité routière, ce serait une mesure d'économie d'énergie. L'industrie de l'automobile allemande, qui est spécialisée sur les grosses cylindrées, s'y oppose depuis toujours, et le gouvernement allemand avalise cette position.
Enfin, il y a quand même des Länder où il y a bien des limitations.
Oui, oui, beaucoup, mais sur le plan fédéral, il n'y a pas.
Oui. Mais de plus en plus, en réalité,
et
le
puis,
territoire.
Est... Je crois que c'est important aussi à dire, c'est que le mécanisme de prise de décision à Bruxelles est assez différent de ce qu'il est en France. On a une commission européenne qui est beaucoup plus ouverte sur la société civile. Donc les allers-retours avec les lobbies, qui pour moi n'est pas un mot impropre ou sale, parce qu'il y a aussi bien des lobbies d'entreprises privées que de fédérations professionnelles que d'ONG, sont beaucoup plus écoutés à Bruxelles. Et donc le travail que font les ONG à Bruxelles me paraît être beaucoup plus efficace que celui qu'elles peuvent faire dans les pays. Donc elles ont beaucoup plus accès à la Commission européenne.
Donc le problème qu'elles peuvent constituer à l'échelle nationale, on s'en souvient, ça avait beaucoup été évoqué par Nicolas Hulot justement au moment de sa démission, il n'existe pas à l'échelle européenne.
Il existe moins. Elles sont davantage reçues, écoutées, légitimes à exprimer leur point de vue. Elles ont des échanges réguliers avec le Parlement européen où elles sont beaucoup auditionnées. C'est le cas aussi en France au Parlement, mais avec la Commission. Donc il y a moins cette coupure, si vous voulez, qui est assez propre à la France, entre un État fort et une société civile atomisée et qui est considérée comme illégitime à faire valoir son point de vue.
Guillaume Saint-Denis, le mois dernier, on a fêté les 40 ans de la directive Oiseaux, justement, à laquelle vous faisiez référence sans la nommer tout à l'heure, qui a été augmentée il y a une dizaine d'années d'une nouvelle mouture, mais peu importe. Il se trouve que c'est un thème qui exigeait évidemment une très grande coopération, une très grande transversalité. C'est un objet qui l'impose, bien sûr. Les oiseaux ne connaissent pas de frontières et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge de façon collective. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte précisément cette directive est adoptée, les débats politiques qu'il y a derrière justement et les problèmes que ça va poser, puis peut-être qu'on pourra regarder aussi le bilan qu'on peut en faire. C'est intéressant de regarder quand on prend des directives ce qui se passe concrètement.
Oui, alors c'est intéressant parce qu'en effet, l'action, on parle beaucoup de climat, mais l'action de l'Union européenne en matière de climat est assez récente. Dans les années 70, la question du climat n'était pas sur l'agenda des politiques publiques, ni nationales, ni européennes. Et donc, les questions qui étaient prioritaires, c'était les questions de protection de la nature. Mmh. On appelait ça comme ça, puisque le mot biodiversité n'était pas encore apparu. Alors, en effet, la Commission est d'abord apparue par des livres verts, des livres blancs, des recommandations, des choses comme ça qui n'avaient pas de valeur législative, si on peut le dire comme ça. Et puis, une des premières directives qui a été adoptée dans le domaine de l'environnement, c'était une directive qu'on appelle communément Oiseaux, en 1979. Elle a été adoptée sous présidence française, Michel Dornano, ministre de l'Environnement, Jean-François Poncet, ministre des Affaires étrangères. Et c'est une directive qui part d'un constat simple, qui est que les oiseaux migrateurs, par définition, ne sont pas nationaux, et donc l'Europe est davantage légitime à intervenir que les États nationaux, puisqu'à chaque fois que l'Europe intervient, elle doit prouver qu'il y a une efficacité supérieure à l'Europe à intervenir par rapport aux États membres, ce qui n'est pas toujours le cas, mais qui l'a été le cas. Et donc cette directive, en gros, elle est axée sur deux choses. D'abord, le fait qu'on ne peut pas, on doit respecter les oiseaux pendant leur situation de dépendance, de migration et de reproduction. C'est-à-dire que, par exemple, on ne doit pas chasser les oiseaux au printemps. Or, il y avait une tradition en France qui était le fait qu'on ouvrait la chasse aux canards au 14 juillet et qu'on la fermait fin mars. Ce qui, évidemment, était trop tardif, puisque autant la migration de descente, ce sont des oiseaux dont une grande partie est destinée à mourir du fait des rigueurs de l'hiver et du trajet de migration, autant ce qu'on appelle la migration de retour, ce sont des oiseaux qui sont de reproducteurs potentiels. Et grâce à cette directive, beaucoup de pays, dont la France, ont énormément réduit leur période de chasse, qui maintenant commence au plus tôt fin août pour les canards et se termine le 31 janvier. Donc c'est quand même une chasse qui est beaucoup plus respectueuse de la reproduction et de ce fait-là, on a un certain nombre d'espèces de canards plus ou moins rares qui ne nichaient pas en France et qui maintenant nichent en France. Et
le deuxième aspect, à vous entendre, Guillaume Saint-Denis, pardon de vous couper, mais finalement cette directive est une excellente directive, elle a été parfaitement appliquée, elle a eu des effets.
Elle a été difficilement appliquée, mais elle est maintenant appliquée.
Est-ce que c'est autant le cas que ça, l'une des des choses qui sont nées de cette directive Oiseaux, c'est par exemple la création de Natura 2000, qui était, qui a été mise en place en application justement cette directive Oiseaux de 79. C'était en gros, il s'agissait de mettre en place des aires protégées. Si on regarde les choses, est-ce que effectivement les États membres ont respecté leurs engagements et ont mis en place ces zones?
Alors, Natura 2000 n'est pas exactement né de la directive Oiseaux, en fait. Parce que le deuxième aspect de la directive Oiseaux, mais qui a été un peu minoré au début, c'était en effet l'idée que les États devaient désigner des zones qui étaient favorables à la reproduction des oiseaux, à leur hivernage, etc. Mais c'est la directive Habitat de 1992 qui a été très importante et qui a repris cette idée pour toutes les autres espèces et tous les autres espaces. Et c'est de là d'où est né le réseau Natura 2000, qui a été extrêmement difficile à mettre en place dans plusieurs pays, dont la France, où ça s'est assez mal passé au début. Et on a maintenant 11% du territoire en France qui est sous Natura 2000. C'est moins que dans d'autres pays qui sont allés jusqu'à 25%. Mais c'est un réseau qui est extrêmement important et c'est une directive qui est majeure pour la préservation de la biodiversité en Europe, parce que c'est un système juridique qui est commun à tous les pays. Ils ont tous l'obligation d'avoir ces zones. Et ce qui a été difficile à appliquer dans ces pays et en France, c'est que c'est un esprit anglo-saxon. C'est-à-dire que c'est pas un esprit de protection, de réserve, où on sait à l'avance ce qu'on peut faire ou pas faire, comme on sait le faire dans les réserves françaises. Mais rien n'est interdit a priori, mais on doit prouver que les activités économiques qu'on va faire dans la zone ne vont pas nuire aux raisons pour lesquelles la zone a été désignée. En tout état de cause, ce réseau existe, c'est un progrès considérable. Certes, certains pays auraient pu désigner plus de zones, et ensuite, il y a le problème de savoir si ce qu'on fait dans les zones est conforme à l'esprit de la directive ou pas. Globalement, c'est le cas. Bien sûr, il y a des exceptions. La Commission européenne surveille ça beaucoup, et il y a beaucoup d'avis motivés, de procédures précontentieuses ou de procédures contentieuses qui sont lancées contre les États membres lorsqu'ils ne respectent pas cette directive.
Nathalie Berny, alors peut-être une réaction en particulier sur cette directive Oiseaux, mais j'aimerais avoir votre avis sur, de façon générale, parce qu'il y a évidemment énormément de directives en Europe sur les questions d'environnement, est-ce qu'elles sont globalement bien mises en place, bien appliquées, bien respectées, Nathalie Berny, ou est-ce que de ce point de vue-là, il y a encore peut-être du travail à faire, et peut-être la nécessité de systématiser le contrôle justement de ces dites directives, Nathalie Berny?
Oui, la question de la mise en œuvre est en effet essentielle, puisque sans mise en œuvre, il n'y a pas vraiment de politique publique.
Bien sûr.
Et on trouve les mêmes logiques, en fait, dans les États membres, comme au niveau européen. Au niveau de la mise en œuvre, une partie des acteurs, des incompréhensions, d'une partie des acteurs peuvent être mécontents, ralentir l'application. Ou bien encore, il peut y avoir des problèmes de malentendus sur la législation. Donc, très concrètement, ça veut dire que depuis les années 80, la Commission européenne donne des informations sur ce processus de mise en œuvre. C'est très important parce que ça permet vraiment de mesurer les progrès faits. Dans les années, fin des années 80 et début des années 90, malheureusement, ce qu'on a appelé le déficit de mise en œuvre est devenu un moyen de critiquer cette politique d'environnement. Donc en fait, c'était un peu le principe du moins de lois, mais des lois de meilleure qualité, une législation de meilleure qualité.
Et justement, quels sont les outils, Nathalie Berny, pour aller vers ce contrôle-là?
Les outils, ils sont... les outils qu'on associe à la mise en œuvre, ce sont des consultations en amont des préparations de législation menée par la Commission européenne avec les fonctionnaires des États membres. Il y a des consultations vraiment très importantes pour évaluer la faisabilité de la politique publique. Parce que parfois les États ne peuvent tout simplement pas, n'ont pas les moyens de le faire. La directive cadre sur l'eau, par exemple, avait posé un certain nombre de problèmes pour les États membres. Ensuite, vous avez à l'autre bout du processus, le processus de mise en œuvre lui-même, la Commission européenne doit s'assurer de la transposition du droit européen en droit interne, mais aussi de la bonne application vis-à-vis des objectifs. Et donc, ce sont des échanges d'informations avec les États membres. Il y a une initiative beaucoup plus récente qui a été mise en place par la Commission Juncker. C'est un processus de suivi d'application du droit communautaire avec des informations données par l'Agence européenne de l'environnement tous les deux ans sur un certain nombre d'indicateurs et des rapports à préparer par les États membres sur la mise en œuvre de ce droit. C'est très important, tout simplement parce que les États sont tenus de produire ces rapports et, et c'est un peu l'évaluation récente qui a été faite du processus. En fait, on voit bien l'intérêt de cet exercice.
Bien sûr, on voit bien l'intérêt de regarder si les choses sont correctement appliquées.
Je suis désolée d'être un peu longue là-dessus. Parce qu'il y a aussi des procédures d'un...
Guillaume Saint-Denis, peut-être, réaction sur cette question des outils, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses. Il y a des consultations, il y a la commission. Je pense aussi, par exemple, à l'Agence internationale de l'environnement, qui, elle aussi, est chargée de cette surveillance, ce contrôle, cette mise en application de tout ça. Est-ce que tout ça fonctionne bien, ou est-ce que vous diriez qu'on a un problème? Il nous manque les bons outils, d'une certaine manière, pour déployer cette politique environnementale qui est pensée, développée à l'intérieur de nos institutions.
Oui, je poserais peut-être le problème autrement. Je pense que, globalement, ce qui existe fonctionne bien, à savoir que les directives sont adoptées, mais quelquefois le processus est un peu long, elles sont en général appliquées, les cas de manquement sont quand même pas du tout la majorité, ce sont quand même des minorités. Ce qui va pas, c'est que quelquefois le délai de transposition des directives est dépassé, les États, soit pour des raisons administratives, soit pour des raisons autres. Et il y a, en revanche, quand il y a des, ou quand la Commission estime que les choses sont allées trop lentement ou qu'il y a des choses qui n'ont pas respecté, elle a les moyens de se faire entendre, puisqu'elle émet soit une demande d'information, soit un avis motivé, soit une mise en demeure, et ensuite elle saisit la Cour de justice de l'Union européenne qui propose des condamnations.
Et elle le fait.
Prends un exemple. La France a été condamnée il y a déjà une dizaine d'années dans ce qu'on appelle l'affaire des filets sous taille, où en gros elle avait des filets de pêche qui étaient à des tailles trop petites, ce qui fait qu'on prenait les petits poissons qu'on n'a pas le droit de prendre. Elle a été condamnée à 25 millions d'euros d'amende, plus plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende par jour d'astreinte jusqu'à ce qu'elle applique la décision. Donc il y a des cas comme ça dans tous les pays.
On est avec vous, Guillaume Saint-Denis et Nathalie Berny, dans cette semaine consacrée à notre planète. Qui pour sauver la planète? L'Union européenne, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. On va s'intéresser dans quelques instants à la Grande-Bretagne et au Brexit, évidemment.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous avons élaboré la politique économique et environnementale qui guidera la Grande-Bretagne après le Brexit. Notre but sera d'encourager les investissements dans les capitaux matériels et humains, mais par-dessus tout de favoriser le capital naturel. La prospérité de notre économie, et particulièrement dans l'économie de l'alimentation, dépend de notre capacité à développer une approche durable pour le futur, et particulièrement en ce qui concerne nos paysages. Comme nous sommes en passe de sortir de la politique agricole commune, et donc que nous développons notre propre politique agricole, cela suppose de payer nos agriculteurs pour augmenter la qualité et la fertilité de nos sols. Cela signifie donc que nous souhaitons renverser les schémas du passé qui ont entraîné le compactage des sols et les ruissellements, qui ont pollué nos rivières et qui ont empoisonné nos poissons. En soutenant cela, en pratiquant un minimum de labour, voire même une absence de labour dans notre agriculture, ce n'est pas seulement meilleur pour nos rivières et nos cours d'eau, cela nous aidera également à contrôler et réduire nos émissions de carbone, cela réduira l'adjonction d'intrants chimiques et cela offrira un plus riche habitat pour les insectes et les invertébrés.
Voilà, Michael Gove, ministre de l'Agriculture et de l'Environnement. Si les Britanniques s'apprêtent à voter pour les élections européennes après avoir demandé un report de l'activation de l'article 50 du traité de l'Union, il n'en demeure pas moins que la Grande-Bretagne devrait sortir de l'Union, a priori. D'ailleurs, la semaine dernière, le gouvernement de Theresa May a annoncé, après une réunion avec le chef de l'opposition, Jeremy Corbyn, un nouveau projet d'accord qui sera présenté au Parlement la semaine du 3 juin. Alors, quelles seront les conséquences du Brexit sur la politique environnementale britannique? On va retrouver Viviane Gravet, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignante-chercheuse à la Queen's University de Belfast. Je vais vous poser la question de façon assez frontale, directe, Viviane Gravet. On dit que 80% des lois sur la pollution, le recyclage, les productions chimiques, le réchauffement climatique et tout ça vient de l'Union européenne. Donc concrètement, ça veut dire qu'après le Brexit, ces lois n'existeront plus et que tous les cadres, tous les règlements de ces dernières années vont sauter d'un coup en Grande-Bretagne?
Alors, pas exactement, parce que donc l'Union européenne... Alors déjà, ce 80% sont...
Bien sûr.
Ce 80%, il faudrait plus qu'en discuter, il faudrait arrêter d'en parler, mais néanmoins, c'est pas du tout... c'est une blague de Jacques Delors, il y a 30 ans, qui a vraiment trop duré. Mais en fait, le Royaume-Uni, ce qu'il cherche à faire, c'est d'avoir en fait la plus grande opération de copier-coller juridique jamais conçue, de copier donc tout le droit européen dans le droit britannique pour le jour après le Brexit. Donc théoriquement, en fait, en termes de droit, en termes de règlement, il ne va pas y avoir énormément de changements le jour d'après le Brexit.
D'accord. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'objectif, c'est de transposer toutes les lois existantes qui proviennent, qui découlent de l'Union européenne en loi nationale. Et finalement, en gros, l'objectif, c'est de refaire le même cadre, exactement le même cadre, en matière d'environnement. C'est ça le projet pour le Brexit?
Alors, c'est ça le projet. Néanmoins, il y a quand même, en fait, on voit, enfin, quand on va copier-coller à une telle échelle, en fait, il y a quand même énormément de possibilités de faire des petits changements à la marge qui, au final, en s'additionnant, vont avoir des impacts très, très différents. Donc, on voit, en fait, une possibilité aussi, via ce copier-coller, d'affaiblir le droit en cachette. Et bien sûr aussi, si on ne va pas changer, au final, le droit, on va changer les institutions. Il n'y aura, bien sûr, plus le rôle de la Commission, plus le rôle de la Cour de justice, plus le rôle de toutes les agences de européennes de l'environnement, européennes pour l'autorisation des produits chimiques et tout ça. Tout ça va disparaître quand même.
Donc en fait, c'est pas le même cadre en réalité.
Alors, c'est pas exactement le même cadre, en effet. C'est dans ces détails-là qu'on voit vraiment que le Royaume-Uni essaye de vendre un Brexit vert ou avec énormément d'ambition, mais le cadre juridique va être profondément affaibli quand même.
Alors évidemment, Viviane Gravet, vous parlez de Royaume-Uni. Sauf que le Brexit, il va peut-être un petit peu fragiliser précisément ce Royaume-Uni. Et est-ce que quand on aura effectivement entériné ce Brexit, on va avoir un seul cadre pour justement gérer cette question de l'environnement, ou est-ce qu'on va en avoir plusieurs? Je vais dire les choses assez directement. Est-ce qu'on risque d'aller vers une forme de superposition de plusieurs politiques, c'est-à-dire une pour l'Écosse, une pour le Pays de Galles, une pour l'Irlande du Nord? Est-ce qu'on va avoir des cadres, il y a ce risque d'avoir des cadres un peu divergents, ou est-ce qu'on va réussir à conserver ce cadre commun?
Alors, pour l'instant, on ne conserve pas ce cadre commun. Donc, depuis la fin des années 90, on a eu une décentralisation très forte au Royaume-Uni. Et donc, avec ces 20 dernières années, l'Irlande du Nord, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre appliquaient différemment un cadre commun de droit de l'environnement européen. Pour l'instant, l'idée, c'est qu'il y a peut-être un ou deux ans après le Brexit, où le gouvernement de Londres va pouvoir limiter le pouvoir de diverger des autres gouvernements. Mais après, au final, ce sera un peu chacun pour soi. Mmh. Avec l'idée d'essayer peut-être de se mettre d'accord sur certaines questions environnementales.
Sur lesquelles, en fait, ce serait quoi la base commune?
Donc en fait, ce qu'on voit, ils ont fait donc une certaine étude de cas de voir qu'il y a en gros 153 politiques européennes qui touchent en fait les compétences des administrations décentralisées. L'idée, c'est donc où on fait un cadre juridique législatif commun, où on fait juste un cadre politique, ou alors on fait aucun cadre. Et en fait, on voit que les politiques environnementales sont un peu réparties dans ces trois groupes. Mais par exemple, il y a l'idée qu'il n'y ait aucun besoin d'une politique britannique de l'eau. On pourrait avoir une politique de l'eau complètement différente entre le Pays de Galles et l'Écosse, qu'on pourrait aussi avoir juste un accord politique sur la qualité, enfin sur la protection de la biodiversité, ou sur la protection, enfin sur la gestion de la pollution de l'air. Donc on va vraiment détricoter le commun.
Et comment les écologistes britanniques réagissent à tout ça, Viviane Gravet? Est-ce que ça leur convient? Est-ce que ça les inquiète? Est-ce qu'ils essayent de travailler peut-être pour éviter cette diversification des politiques environnementales au Royaume-Uni?
Alors en fait, les écologistes britanniques ont sonné la sonnette d'alarme depuis les référendums. C'était le seul groupe de la société civile à vraiment faire campagne contre le Brexit pendant le référendum, et depuis, ils se sont coalisés en une grande coalition. Donc, bien sûr, les ONG britanniques, c'est les ONG les plus fortes d'Europe quand il s'agit d'environnement. Ils ont des millions de membres. Donc, on a en gros maintenant un gros groupe de pression qui s'appelle Greener UK, qui regroupe en fait des institutions qui ont presque 9 millions de membres au Royaume-Uni. Et ils demandent des cadres clairs. Ils demandent aux quatre gouvernements de travailler ensemble, et ils demandent surtout, bien sûr, au gouvernement de Londres de ne pas affaiblir ce droit en cachette, et surtout de ne pas à ce point-là renforcer le pouvoir exécutif. Car ce qu'on voit, donc cette histoire de ce grand copier-coller juridique, au final, ça étouffe complètement le Parlement. Le Parlement n'a pas le temps, n'a pas la possibilité de regarder toutes ces lois. Et donc, en fait, on donne énormément de pouvoir au ministre, et le ministre réécrit le droit de manière à simplifier la vie des ministres qui vont suivre. Et donc, par exemple, sur l'application du principe de précaution, qui va être très très faible en termes de bloquer n'importe quelle initiative ministérielle.
Et puis par ailleurs, j'imagine qu'il y a une autre inquiétude, qui est celle de savoir si ces questions-là seront véritablement une priorité pour le gouvernement. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui risquent de passer avant.
Alors, en fait, on voit quand même avec les conservateurs, ils le répètent très très souvent, qu'ils souhaitent être le premier gouvernement voulant laisser l'environnement dans un meilleur état qu'ils ne l'ont trouvé. Ils parlent d'un Brexit vert, mais, et c'est là très important, avec l'Union européenne, on a quand même une stabilité du droit, une certitude pour l'investisseur, parce que le droit est là pour durer. Au final, avec un gouvernement, enfin, le système britannique, après n'importe quelle élection, on peut réécrire complètement le droit. Et donc, en fait, il n'y a aucune certitude dans le long terme sur l'ambition environnementale du Royaume-Uni. On voit que aujourd'hui, Michael Gove, dont on a entendu quelques mots avant, est très ambitieux, en tout cas en termes de parole, mais il n'y a aucune garantie que la personne qui va le succéder le saurait tout autant.
Guillaume Saint-Denis, réaction à ce cas britannique et sur l'effet du Brexit sur les politiques environnementales?
Oui, tout ça a été très bien expliqué là par l'intervenante, mais je voudrais dire une chose à laquelle on ne pense jamais, qui est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, la Grande-Bretagne a eu une influence assez importante dans la construction ou la réforme des politiques environnementales européennes depuis qu'elle est rentrée.
En quoi ?
Par exemple, sur la politique agricole commune, il se trouve que l'Angleterre a connu un exode rural beaucoup plus précoce et beaucoup plus massif que les pays d'Europe continentale, et que donc elle est très vite passée d'un soutien au prix des produits alimentaires à un soutien au revenu des agriculteurs. Et le soutien au revenu était beaucoup, parce que ça coûtait moins cher budgétairement. Et le soutien au revenu est beaucoup plus facile à lier à des conditions environnementales que le soutien au prix. Et donc le fameux passage du soutien au prix des produits agroalimentaires au revenu, qui est la PAC actuelle, on le doit beaucoup à la Grande-Bretagne dans les années 90.
Un tout dernier mot, Viviane Gray, parce que c'est quand même aussi l'actualité qui nous rattrape. On a vu en décembre dernier émerger du côté de la Grande-Bretagne ce mouvement baptisé Extinction Rebellion qui a multiplié les opérations de manifestation, de blocage, d'actes de désobéissance civile pacifique, divers et variés. La pression est devenue telle que le Parlement britannique, vous parliez du Parlement, a décrété au début du mois l'urgence climatique. Concrètement, ça change quoi ? En quoi est-ce qu'il est contraignant ? En quoi est-ce qu'il va obliger à prendre des mesures très concrètes ?
Alors ça change pas grand chose, parce qu'en fait on a déjà au niveau britannique le cadre législatif le plus ambitieux au niveau européen et au niveau mondial, en fait, point de vue lutte contre le changement climatique. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au final le gouvernement a des objectifs clairs et que pour l'instant on n'était pas non plus vraiment en train d'arriver à atteindre des objectifs. Donc ce qu'on va voir, en fait, c'est plutôt Extinction Rebellion comme mettant un peu plus de pression sur le gouvernement pour les forcer à en effet faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Et aussi, en fait, on voit le comité sur le changement climatique qui a donc publié la semaine dernière un rapport pour essayer de pousser d'avoir des objectifs encore plus ambitieux et donc d'être neutre en carbone beaucoup plus tôt que prévu.
Merci beaucoup Viviane Gravet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse à la Queen's University de Belfast. Un grand merci à vous.
I last set eyes on the church with the steeple down by the village green. Once there I met a girl called Daisy and kissed her by the old oak tree. Although I loved my Daisy, I saw fame, and so I left the village green. I miss
the village. Merci à nos deux invités. D'abord vous, Guillaume Saint-Denis, qui avait été avec nous en plateau ici à Paris. Je rappellerai pour les auditeurs que vous êtes l'auteur notamment de Le climat qui cache la forêt, comment la question climatique occulte les problèmes d'environnement, qui était paru aux éditions Rue de l'Échiquier. Merci également à Nathalie Bernier qui est avec nous en duplex de Bordeaux. Je rappellerai vous concernant Défendre la cause de l'environnement, une approche organisationnelle, qui était paru aux presses universitaires de Rennes. On mettra évidemment les références de tous ces ouvrages sur la page de Culture Monde. Les auditeurs peuvent retrouver ça. Et puis on parlait justement des sociétés civiles, ça sera notre sujet de demain. Est-ce que les sociétés civiles peuvent sauver notre planète ? Eh bien c'est la question qu'on se posera demain à 11h. Pour l'heure, 11h53, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors Galia Ackermann est surtout connue comme traductrice du russe en français, à son actif une centaine d'ouvrages, mais cette historienne, spécialiste de la Russie, spécialiste de l'Ukraine, est aussi auteure. Elle vient de publier Le Régiment Immortel.
Et oui, et l'histoire du Régiment Immortel, qui donne son titre donc à cet essai, peut être considérée comme l'allégorie de ce qui est arrivé à la Russie depuis que Poutine y a imposé un tournant politique décisif. Au départ, une initiative qui émane de la société civile. Des descendants des combattants russes de la Seconde Guerre mondiale décident de célébrer à leur manière le souvenir du prix exorbitant payé par le peuple russe pour la libération de son pays. À l'époque soviétique, les célébrations officielles de la victoire du 9 mai étaient réservées aux généraux fameux et aux héros d'exception. Aussi, à la faveur de la perestroïka de Gorbatchev, ici ou là dans plusieurs régions, la population locale décida de suivre les défilés militaires habituels en brandissant des portraits des pères, grands-pères et arrière-grands-pères ayant combattu sous l'uniforme de l'armée rouge contre les armées nazies et leurs alliés. Il s'agissait, explique Galia Ackermann, je cite, de rétablir la justice. Les héros qui s'étaient battus pour la liberté de leur pays avaient droit d'assister eux ou leurs photos à la fête de la victoire. À partir de 2007, l'idée se généralisa progressivement à toutes les grandes villes de Russie. Des journalistes trouvèrent alors un label pour cette cérémonie, Régiment Immortel. Les idéologues nationalistes russes, dans un esprit qui rappelle beaucoup Maurice Barrès, entreprirent de donner à ce défilé de civils un sens quasi mystique, celui d'une présence réelle des morts au milieu des vivants, communiant dans un culte de la patrie immortelle. Écoutez le fameux théoricien national-bolchevique Alexandre Douguine. Les héros morts reviennent et marchent avec leurs descendants. Les morts reviennent, les morts vivent, les morts sont dissous dans notre sang. Le peuple est ainsi constitué, il est impensable sans les morts, ils en font partie intégrante.
Alors Brice, comment le pouvoir a-t-il réagi à cette initiative qui lui a échappé un peu?
L'attitude du pouvoir envers le régiment immortel est révélatrice. Poutine observa avec intérêt la montée du mouvement. Le 9 mai 2010, il n'était encore que 5000 à Moscou, mais en 2013 déjà, le régiment immortel défilait dans 120 villes russes, également en Ukraine, au Kazakhstan et en Israël. L'année suivante, 500 villes et 7 pays connurent leur défilé de civils brandissant les portraits des anciens combattants russes. Aussi, en 2015, Poutine décida d'apporter au régiment immortel le soutien de l'État et de l'encadrer. Et lui-même défila cette année-là, le 9 mai à Moscou, en tête d'un cortège d'un demi-million de personnes brandissant le portrait de son propre père. Depuis lors, ce sont des foules immenses, près de 8 millions de personnes en 2017, qui défilent ainsi dans un ordre quasi militaire. L'État s'est accaparé, écrit Galia Ackermann, une initiative dont l'objectif initial était plutôt noble, préserver au sein de chaque famille la mémoire de la génération qui a vécu la Grande Guerre patriotique, comme les Russes ont baptisé, vous le savez, la Deuxième Guerre mondiale. Les portraits de Staline y ont bientôt fait leur apparition. En février 2017, le dictateur sanguinaire s'est retrouvé en tête du classement des plus grandes personnalités de l'histoire mondiale en Russie, avec un taux de popularité de 38% devançant ainsi Vladimir Poutine et Pushkin, signe des temps. Et le régime instrumentalise de manière de plus en plus ouverte ce rite patriotique au profit de sa propagande ultranationaliste et belliqueuse. En vérité, c'est tout le passé de la Russie et de l'Union soviétique qui fait ainsi l'objet d'une héroïsation et qui est mobilisé au service du pouvoir et de ses ambitions. De même que Staline avait commandé au grand réalisateur Sergueï Eisenstein un film à la gloire d'Alexandre Nevski, ce prince russe qui refoula les chevaliers teutoniques afin de galvaniser les peuples de l'Union soviétique, Poutine et ses technologues politiques, à sa solde, cultivent la nostalgie de l'Empire soviétique. Mais on se garde bien de rappeler que le film d'Eisenstein fut retiré des cinémas soviétiques à la suite du pacte germano-soviétique d'août 1939, car cet épisode, l'alliance militaire et économique entre les deux totalitarismes qui dura près de 2 ans, n'a pas sa place dans l'histoire sainte du régime. Mais le paradoxe de cette histoire réécrite par le régime de Poutine, c'est qu'on y célèbre à la fois le glorieux passé tsariste et le non moins glorieux héritage du régime soviétique. Ce qui est considéré comme positif dans les deux cas, eh bien c'est l'expansion territoriale de la Russie, la conquête de nouveaux territoires. Et pour parvenir à cette étrange réconciliation, c'est la nature communiste de l'ex-URSS qui est gommée. L'histoire de la Grande Russie est une, et elle est de part en part glorieuse.
Merci beaucoup, cher Brice Couturier. Donc, je rappelle le titre de cet ouvrage, Le Régime Immortel, sous-titré La Guerre Sacrée de Poutine, qui vient de paraître, c'était tout début mai, aux éditions, rappelez-moi, Premier Parallèle. Merci beaucoup, cher Brice. On se retrouve demain dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.